franceinter.fr.
Depuis plusieurs semaines, on entend les Français qui s'impatientent. Mais quand est-ce que la droite va présenter ses candidats pour les élections présidentielles? Ben ça y est, on les a vus ce soir en débat télévisé, les candidats de droite.
Je suis en train d'écouter ton émission sur Dexia, hein, donc... Ce qu'il faut savoir, c'est que Dexia, en fait, on vient d'apprendre il y a quoi, il y a une semaine, qu'ils sont ruinés. Et qu'au mois de juillet, dans un article de journal L'Essentiel, du 11 juillet, Dexia nous dit comme ça qu'elle a subi avec succès les stress tests. C'est marrant, quoi. Les stress tests, nickel, elle est en pleine forme financière. Et puis donc, août-septembre, là, pardi, là, elle chope un putain de cancer financier, un truc phénoménal. En 2 mois, elle est rétamée, elle est complètement ruinée. C'est impossible. C'est impossible, c'est honteux, c'est de la désinformation. Et c'est ce que font toutes les banques en ce moment pour nous faire croire qu'elles vont bien. Elles gagnent du temps. Elles gagnent du temps sur nous, c'est tout, les banques. Mais en fait, le temps, ça fait longtemps qu'il est perdu, le temps. Et c'est terminé. La récréation est terminée, c'est l'apocalypse. Merci pour tes émissions, Daniel.
Bah, impressionnant, quoi. Impressionnant que dans un pays riche comme le nôtre, ce pays s'endette pour payer son fonctionnement. Mais c'est incroyable, quoi, il faut le dire. C'est aberrant. Ah non, mais je trouve pas mes mots. On préfère s'endetter que de faire payer les riches de collecter de l'impôt normalement sur tout le monde et proportionnellement. C'est impressionnant, quoi. On n'en a rien à foutre, quoi. On fout le pays en l'air, mais rien à foutre.
Roumanie, octobre 1951. Le président de la radiodiffusion nationale est convoqué par l'ambassadeur soviétique pour avoir eu l'outrecuidance de diffuser un reportage mensonger et diffamatoire à l'égard de l'URSS. Les représentants du Parti communiste roumain seront aussi présents. Et nul doute que les journalistes coupables seront dûment punis. France, octobre 2011. Le président de la radiodiffusion nationale est convoqué par l'ambassadeur israélien pour avoir eu l'outrecuidance de diffuser un reportage mensonger et diffamatoire à l'égard de l'État hébreu. Le conseil représentatif des institutions juives sera aussi présent. Et nul doute que les journalistes coupables seront dûment punis. Ouf ! Quel bon spatio-temporel ! Heureusement, tout cela reste de la science-fiction. Et le président de France Télévisions n'est pas réellement convoqué par l'ambassadeur d'Israël. Oh si, il l'est. Oh !
Allô, monsieur Mermet, je vous appelle parce que je vois que vous n'oubliez toujours pas les lobbies juifs qui ne représentent rien par rapport au lobby dont vous faites partie et le lobby arabe dans le monde. Vous rendez compte, 15 millions de juifs pour 1,5 milliard de musulmans. Parlez-nous un petit peu des coptes là qui se font massacrer en Égypte et dans les pays arabes, monsieur Mermet. Vous serez gentil d'informer vos clients, votre auditoire là qui vous écoute. Alors, tenez-nous au courant de temps en temps, parce que je vous suis tous les jours. Je voudrais un petit peu qu'on vous écoute là-dessus, sur les lobbies là, dont vous faites partie. Là. Lobby, vous voyez de quoi je parle. À bientôt, monsieur Mermet.
On est encore 70 agents en grève pour le 4e jour consécutif sur le secteur du Finistère Nord. Les agents Pôle emploi qui n'en peuvent plus de rendre le service qu'ils voudraient rendre, à qui on ne donne pas les moyens de faire leur travail. Et en cette période de crise, bah, c'est encore pire que tout, quoi. Donc on appelle tous les collègues de toute la France, France et de Navarre, à continuer le mouvement, à se remettre en grève pour ce qu'il est des agents de la Bretagne et à venir rejoindre le Finistère Nord qui continue, donc, comme je disais, 4e jour de grève aujourd'hui et certainement reconduit demain. On va gagner. Salut.
Merci pour tous ces messages, chers amis, chers AMG. On a couru dans les couloirs pour arriver pile poil en face de ce micro. Dans ce micro, aujourd'hui, on va évoquer ce qui s'est passé à Paris il y a 50 ans. Il y a 50 ans, pile poil, à quelques jours près, puisque ce sera lundi, le 50e anniversaire du massacre des Algériens à Paris. J'hésite à dire Algériens parce qu'on disait pas comme ça à l'époque. On disait des tas de noms d'oiseaux, plus répugnants les uns que les autres. Mais enfin, le mot le plus couramment employé, c'était FMA, Français musulmans d'Algérie. C'était ces Algériens, comme on dit aujourd'hui, plus couramment, qui vivaient autour de Paris le plus souvent, à Nanterre, à Aubervilliers, à Beson, à Argenteuil, dans des conditions extrêmement difficiles, des bidonvilles, aussi à Paris, aussi dans Paris, dans le 13e, dans le 14e arrondissement, autour de Saint-Séverin, le quartier de la Huchette, et qui étaient eh bien des ouvriers, des salariés, qui travaillaient dans les usines automobiles sur différents chantiers et qui contribuaient à reconstruire la France et à reconstruire cette région parisienne. À partir de 1954, à partir du début de ce qu'on appellera seulement 1999, la guerre d'Algérie, eh bien, ils sont impliqués dans cette guerre de libération nationale. Ils sont impliqués de gré ou de force. Beaucoup de gré, mais aussi de force. Et ce soir, du 17 octobre 1961, la Fédération française du FLN organise une manifestation contre un couvre-feu imposé par le préfet de police, un certain Maurice Papon. Un couvre-feu imposé aux faciès, puisque Français musulmans d'Algérie, ils étaient Français. Donc on imposait à ces ouvriers, à ces habitants des banlieues, un couvre-feu aux faciès. Donc la Fédération française du FLN avait organisé cette manifestation. J'allais dire, vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite parce que depuis une vingtaine d'années, depuis 1991, la mémoire s'est mise en marche, s'est remise en marche. Mais pendant 30 ans, entre 1961 et 1991, pendant 30 ans, cette histoire a été occultée, presque complètement occultée. On l'a appelée la journée portée disparue. De temps en temps, un article courageux, une étude, mais très très peu de choses. Et puis 1991, là, il y a un livre qui sort, qui est publié par Jean-Luc Enaudi, un historien, La bataille de Paris. Et puis il y a un collectif qui sort un film qui s'appelle Le silence du fleuve. Ça donnera une association qui s'appelle Au nom de la mémoire et qui existe toujours. Il y aura différents articles, différentes études qui commenceront. Une série d'émissions dans la Basse J'y suis, oui, c'était il y a 20 ans. Et tout ça va contribuer à mettre en route toute une série de travail, de livres, d'historiens, de débats, de films, de bandes dessinées, de chansons même, sur ce 17 octobre 61 qui aujourd'hui occupe sa place, a retrouvé sa place dans notre histoire et dans notre mémoire collective. Il reste une chose extrêmement importante par rapport à cette journée dramatique, par rapport à ce pogrom, par rapport à ces massacres, c'est que l'État reconnaisse sa responsabilité dans ce qui s'est passé ce jour-là. C'est très important parce que sinon la culpabilité continuera, sinon le soupçon continuera de travailler en profondeur notre société, sinon la gangrène continuera. Et cette gangrène, c'est ainsi qu'appelait Benjamin Stora ce refus, ce rejet, ce déni. Et cette gangrène conduit indirectement, par des chemins détournés, parfois difficiles effectivement à capter, à des manifestations de racisme ou d'islamophobie ou de violence ou d'incompréhension. D'où la nécessité d'exiger, de lutter pour que l'État reconnaisse sa responsabilité dans ce massacre, dans d'autres massacres et dans d'autres crimes commis durant la guerre d'Algérie, les tortures notamment, comme ça a été fait pour d'autres atrocités, notamment la rafle du Vel d'Hiv en 1995. Le chef de l'État avait reconnu la responsabilité de la France dans ce crime. C'est nécessaire aujourd'hui qu'à nouveau on obtienne et tous, ça nous concerne tous, cette reconnaissance. Aujourd'hui, on va revenir sur le travail qu'on avait fait en 1991, mais à plusieurs reprises, on est revenu là-bas, si j'y suis revenu sur ce sujet, l'enrichissant de nouveaux témoignages, de nouvelles analyses, de nouvelles archives. Et puis, on entendra des extraits d'un film qui enfin va être visible, Octobre à Paris, de Jacques Panigel, un film qui a été tourné pendant ou juste après cette journée du 17 octobre, par Jacques Panigel, entre octobre 61 et mars 62. Il tournera ce film qui a été très longtemps, qui a d'abord été interdit, et ensuite c'est son auteur lui-même qui refusera que le film soit distribué parce qu'il souhaitait faire une préface à ce film. Jacques Panigel est mort maintenant. Le film va sortir en salle avec une préface de Mehdi Lalaoui, à la fois réalisateur et militant de cette mémoire, de cette association au nom de la mémoire, et vous allez pouvoir le voir très prochainement à partir du 17 ou 18, je crois, dans les salles. C'est un document absolument essentiel pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Marie-Elisabeth des Yvelines. Je viens d'entendre une très bonne nouvelle sur aux infos de France Inter. Gérard Fioche a été relaxé. Donc, le combat continue et ce serait bien si Daniel pouvait à nouveau nous parler de cet inspecteur du travail exemplaire. Merci.
Aucun média n'en parle, mais l'indignation ne faiblit pas. Les indignés sont arrivés à Bruxelles. Ils se préparent à remettre leurs doléances au Parlement européen. Ils sont espagnols, français, allemands. Joignez-vous et participez. Ils occupent une université désinfectée, la HUB, qui se trouve métro Simonis, avenue de la Liberté à Bruxelles. Grande manifestation à Bruxelles et ailleurs en Europe ce samedi 15 octobre, et ce ne sera pas la dernière. Courage !
Eh bien, après le premier tour des primaires du PS et avant le second tour de celle-ci, je voudrais vous annoncer quand même d'autres élections qui concernent pas moins de 20 millions d'électeurs en France, c'est les élections des représentants des parents d'élèves. Alors, ces élections ont lieu vendredi et samedi parfois, et l'organisateur de ces élections, l'État, hein, avec le ministère de l'Éducation nationale, ne fait aucune publicité pour promouvoir une participation des parents. Alors, il faut dire que cette consultation est la seule où les étrangers peuvent voter en France. Certes, la portée politique n'est pas très considérable, et ben pourtant, lorsqu'on interroge les Français, l'éducation est la priorité pour une grande majorité d'entre eux. Alors, parents, allez voter dans l'école, le collège ou le lycée de votre enfant pour élire ceux qui vont vous représenter. Merci, bon courage à tous, au revoir.
En partance pour le Forum des Peuples qui se tiendra à Nice du 1er au 4 novembre en marge du G20, la caravane de l'Alter G20 passe à Aix-en-Provence samedi 15 octobre prochain. Le collectif 13, les peuples d'abord, pas la finance, vous attend nombreux, donc ce samedi 15, d'une part de 10h à 14h à la boutique d'artisans du monde 7 rue Littéra avec une animation autour des producteurs de cacao, puis de 13h30 à 15h en bas du cours Mirabeau, à l'occasion de la mobilisation mondiale des indignés, la caravane rejoindra les indignés d'Aix pour un pique-nique partagé. Et enfin, à 15h, aux Allées Provençales, nous proposons un village associatif avec de nombreux stands et des actions de rue. Nous vous attendons donc nombreux, samedi 15, toute la journée.
Bonjour Daniel, c'est Sylvie de Grasse. Notre prochain Café Repère aura lieu ce vendredi, le 14 octobre, de 19 à 21h, qu'on sera au bar snack Le Rond-Point, 4 avenue Marcel Pagnol. L'avenue Marcel Pagnol, c'est celle qui démarre du rond-point des Quatre Chemins à Grasse et qui longe le McDonald's. Désolée pour la référence. On a choisi comme thème « Comment trouver des équilibres de vie qui permettent de te moins consommer ?»
Vers 20h30, j'étais au pont de Neuilly avec beaucoup de compatriotes. Des policiers ont dit « Nous nous sommes tous sauvés, mais je me suis perdue ne connaissant pas le chemin. » Un peu plus loin, au bord de Seine, j'étais arrêtée par des policiers qui m'ont demandé mes papiers. Ils m'ont donné des coups de crosse sur la tête et sur les épaules, ainsi que sur tout le corps. Je suis tombée assommée et portée jusqu'à ce jour des traces de ces coups. Je me suis assise sur le trottoir et ai fait signe à une quatre chevaux. L'homme s'est arrêté, mais a refusé de m'emmener à l'hôpital, bien que je lui ai proposé de le payer. J'ai arrêté ensuite un taxi. Le chauffeur a refusé de me prendre parce que j'étais plein de sang. Je suis restée sur le trottoir jusqu'à 11 heures lorsqu'un Algérien et un Espagnol sont passés. Ils ont appelé une ambulance en disant que j'avais été frappée par la police, mais elle n'est pas venue. Alors ces deux hommes m'ont aidé à aller jusqu'à l'hôpital. Je suis en France depuis 1950. Aucun juge ne m'a convoqué.
18 octobre 1961.
La police est m'ajoutée à la scène.
J'ai été torturé par les harkis.
J'ai été battu par les flics de la Vigée.
Je suis torturé par les harkis, m'a mis la bouteille.
Bonsoir. Je suis prêtre et je suis un témoin direct des manifestations du 17 octobre 61. J'habitais près du pont de Neuilly et j'ai assisté au massacre. Il y a eu de grandes sauvageries de la part de la police. Je l'ai vu et ça, je peux en témoigner personnellement. Pendant 30 ans, je n'ai pas compris le silence de la France d'ailleurs sur ces massacres. Et pendant longtemps aussi, j'ai détesté Papon. Mais ça serait trop facile de dire aujourd'hui qu'il est le seul responsable, car à l'époque, il y avait aussi, quand même, faut pas l'oublier, un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Roger Frey. Il y avait aussi un président de la République. Et puis il y avait aussi la population de Paris qui a tout vu et qui n'a rien dit. Papon, c'est vrai, est un salaud, mais il faudrait pas quand même en faire un bouc émissaire, parce que ça serait trop facile. Il y a d'autres responsabilités, il faut qu'elles soient vraiment toutes dégagées. Voilà. À bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. 17 octobre 1961, 50 ans après, une journée portée disparue.
Inter, actualité.
Le couvre-feu a été fixé à 20h pour tous les Nord-Africains vivant dans l'agglomération parisienne. Pour la première fois depuis le début de la guerre d'Algérie, le FLN organise une manifestation de protestation qui durera pendant 3 jours.
Les témoins rapportent aux journaux des scènes de lynchage, de noyades.
Bonjour et vive la France, mon général de Gaulle, soyez le bienvenu. Après voilà 12 ans, garçons et filles, pelotons, escadrilles, se rallient à votre commandant. Nous sommes tous présents, têtes brûlées d'Afrique, résistants d'avant-hier et soldats d'aujourd'hui, pour crier avec vous, vive la République, et qui pourra défaire le sang qui nous unit. Dire non l'alerte, dire non l'allant, avec l'Algérie française, avec Massu et Salan. Dire non l'alerte, dire non l'allant, avec l'Algérie française, avec Massu et Salan.
J'avais 20 ans et je ne laisserai jamais personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Je lisais Paul Nizan et j'avais 17 ans. Le 17 octobre 1961, il pleuvait ce soir-là sur Paris et nous avions peur de la haine qui était en chacun. J'étais dans la manif sur le pont Saint-Michel, la manif des Algériens venus des bidonvilles, des banlieues. On ne disait pas encore Algériens, on disait Français, musulmans, Algériens. On disait Bougnoul, Sidi, Krouya, Raton et Melon. Des femmes, des hommes, habillés beaux. Des femmes avec des robes à fleurs sous les impairs, effrayées de leur audace de se montrer, d'exister dans Paris. Parfois on entendait Algérie algérienne, et puis les gardes mobiles ont chargé sur le pont Saint-Michel, panique dans la foule, comme tous. J'ai couru et sans savoir pourquoi, je me suis arrêté au niveau de la pendule au bout du pont Saint-Michel, à l'entrée du métro. Et là, j'ai vu un homme, un manifestant, passer par-dessus le parapet. Il s'est planqué en boule, tassé sur le rebord extérieur du pont qui surplombe le fleuve.
Les gardes mobiles chargeaient, on criait, on entendait des pas, des cris, des halètements tout autour. Et puis, j'ai vu un CRS, ce n'était pas des CRS, je pense que c'était des gardes mobiles, qui a vu l'homme en boule sur le rebord du pont Saint-Michel et qui a commencé à le massacrer à coups de crosse. J'entends encore très précisément les coups de crosse sur le dos de ce type, puis sur le crâne. L'homme s'agrippait aux colonnettes du pont et les forces de l'ordre, ils étaient 5 ou 6, ont cogné inlassablement sur les mains jusqu'à ce que l'homme lâche prise et tombe dans la Seine comme une pierre. Dans la chute de Camus, Albert Camus, le narrateur entend un corps tomber dans l'eau. Il hésite et il continue son chemin. Et je n'ai pas continué mon chemin, pas de la même façon, jamais plus. Je me souviens aussi du 1er novembre 1961, quelques jours plus tard, au métro Maubert Mutualité, il y avait un petit homme bigleux et silencieux et une petite foule autour, silencieuse. Les hommes et les femmes qui étaient là étaient traîtres à la patrie. Ils militaient dans des réseaux de soutien aux Algériens en lutte contre la colonisation française. Il y avait aussi des hommes jeunes qui refusaient de partir en Algérie avec le contingent. Ils désertaient, ils sifflotaient le déserteur de Boris Vian et je sifflotais avec eux. Mais pas là, il y avait ce silence, on se taisait, 5 minutes de silence en hommage aux victimes du 17 octobre 61. Mais c'était aussi avant tout un silence d'impuissance, l'intuition que ce silence durerait très longtemps. Au bout de quelques instants, nous nous sommes dispersés dans ce dimanche morne. Le petit homme, bigleux et silencieux, s'appelait Jean-Paul Sartre. Une amnésie qui gangrène et qui a gangréné notre pays, un pays complice par indifférence. Mais voilà qu'on dirait que quelque chose se débloque, s'ouvre enfin, des archives, des consciences, des mémoires sur nos épouvantables secrets de famille, notre misérable petit tas de secrets à nous. Est-ce la fin de l'époque opaque, la fin du mépris d'État? Sisyphe, aujourd'hui en tout cas, s'arrête un instant sur le pont Saint-Michel, jette une rose dans la Seine en se demandant est-ce la fin de l'oubli et peut-on oublier l'oubli.
Les musulmans étaient dans les rues de la capitale. Ils y étaient en foule, 20 à 25 000, semble-t-il, regroupés dans différents secteurs, suivant les mots d'ordre du FLN, pour manifester leur opposition aux mesures prises récemment par les autorités à leur encontre. Vous savez ce que sont ces mesures? Elles se traduisent pratiquement par l'impossibilité de circuler le soir. En tout cas, les cafés tenus par des musulmans doivent être fermés à 19h30. Hier donc, quelques premières manifestations en fin de matinée et dans l'après-midi ont lieu sur les grandes artères de Paris. Dans la soirée, un nœud important se forme vers le rond-point de la Défense, d'autres dans divers secteurs. Crise hostile, slogan FLN, voitures malmenées, retournées. Très vite, les heurts deviennent inévitables. Des coups de feu claquent chez les manifestants. Les forces de l'ordre ripostent. C'est le scénario dramatique. Bilan, 2 tués. Et aussi un Européen, un Français originaire du Finistère et demeurant à Rouen, qui était on ne sait pourquoi à Paris. Il est mort à l'hôpital Cochin. 64 blessés hospitalisés parmi les musulmans. 12 de représentants du service d'ordre, dont 2 brigadiers et 1 officier de police blessés également. Soulignons toutefois que personne dans le service d'ordre n'a été blessé par balle. Plus de 11 000 musulmans appréhendés et conduits au palais des sports ou au stade de Coubertin. Le préfet de police devait faire savoir cette nuit qu'une grande partie d'entre eux serait refoulée dès cette semaine sur l'Algérie. Voilà où on en était au lever du jour.
Tous dans le même bateau, je préfère les naufrageurs. L'Algérie, c'est beau, oui, 60-62. Quelque part ça me fait peur. 60-62, y'avait pas que des rockers.
On pense à la préfecture de police que les musulmans tenteront de manifester aujourd'hui par petits groupes. Ce sera l'opération Commando qui précédera la manifestation des femmes prévue pour demain. En prévision de ces tentatives musulmanes, un très important service d'ordre a été mis en place cet après-midi. Membres de la police municipale, CRS et gendarmes ont été placés sur les grandes voies d'accès de la capitale, à l'entrée des ponts et dans les gares, et ceci afin d'interdire aux manifestants les quartiers centraux ainsi que les Champs-Élysées et les grands boulevards. En outre, la police procède à un sévère ratissage dans tous les quartiers où de nouveaux incidents pourraient se produire.
Terrorisme, OAS, Afro d'époque, RAS, la vérité sur ces années est encore tabou. J'aime mieux rester éveillé. Quand je couche mal, je vois brûler les feux de la braise qu'a dit la haine qui dormait en nous. Oh. Tous dans le même bateau, je préfère les naufrageurs. L'Algérie, c'est beau.
Le 17 octobre 61, les Algériens de Paris à l'appel du FLN manifestent contre le couvre-feu. C'est une nuit de massacre. Officiellement, 2 morts côté manifestants, 2 blessés par balle du côté des forces de l'ordre. En vérité, il n'y eut pas un seul policier blessé par balle, mais la répression fit plus de 200 morts. Depuis 58, il faut dire que le FLN pratique des attentats en France. Mais jusque-là, c'était une sorte de guerre civile qui se livrait dans ce qu'on appelait à l'époque donc la métropole entre le MNA, le mouvement nationaliste algérien, et le FLN, le Front de Libération Nationale. Ça a été une guerre terrible, surtout dans les années 57-58, qui fit des milliers de victimes. À partir du mois d'août 58, commencent des opérations militaires du FLN en métropole contre différents objectifs, des entrepôts d'hydrocarbures par exemple, et aussi contre des commissariats de police, contre des policiers. De 1958 à 61, environ 60 policiers ont été tués par le FLN en France. Dans l'été 61, les attentats sont suspendus à cause des négociations qui sont en cours, mais en septembre 61, les attentats reprennent. C'est à ce moment-là que la répression du côté français se durcit.
Voilà les archives de la base où je suis. C'était une série d'émissions que vous avez proposées à la fin 1991, il y a 20 ans exactement. Et c'était le début, je le disais en commençant, d'un travail sur ce qui s'était passé 30 années auparavant, ce 17 octobre 1961. Évidemment, il y a un contexte à ça, il y a une histoire à ça qui est celle de la colonisation de l'Algérie, 132 ans de colonisation de l'Algérie, 132 années de résistance des peuples d'Algérie. C'est une journée qu'on ne peut pas complètement isoler de ce qui se passait au moins depuis, mettons, 1945, avec les massacres et les tueries de Sétif et de Guelma. La présence, je le disais en commençant, de ces travailleurs algériens en France, et notamment dans la région parisienne, 1954, le début de la guerre d'Algérie, et la répression continuelle contre le FLN qui était présent. On a déjà fait allusion aux luttes internes au Front de Libération Nationale et du Front de Libération Nationale, du FLN, contre le MNA, le mouvement nationaliste algérien, qui a fait beaucoup de victimes sur le sol français, en Algérie bien évidemment, mais sur le sol français également. Et cette répression permanente de la police française et du gouvernement français, avec cette grande date de 1956, qui a été le vote des pleins pouvoirs, avec un gouvernement socialiste, SFIO, incarné par Guy Mollet, et avec le soutien des élus communistes, les pleins pouvoirs ont été donnés à l'armée et aux forces de l'ordre en Algérie, ce qui a déclenché et entraîné la torture en Algérie, puis en France, on va le voir, 58. C'est l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. C'est à cette époque, Maurice Papon est préfet de police et on s'achemine peu à peu, en 60, 61, vers le dénouement. On sent qu'on va vers le dénouement, vers des accords, c'est les accords d'Évian, et en septembre 1961, malgré tout, les attentats contre en France, les attentats reprennent, et le 17 octobre 61, donc, il y a dans les jours qui précèdent, il y a ce couvre-feu imposé par la préfecture de police, et puis le 17 octobre, cette manifestation. Celui qui a, non pas révélé, mais qui a écrit le livre qui sert de référence toujours aujourd'hui, 20 années plus tard, c'est Jean-Luc Hénaudy, en 1991. Nous l'avions rencontré, il publiait La bataille de Paris.
En France, donc, à début septembre, fin août, début septembre 61, les attentats reprennent. Les attentats du FLN reprennent. En même temps, donc, se durcit cette répression. Et des policiers sont tués. Il y en aura 11 de fin août jusqu'au début octobre 61. 11 à Paris et dans la région parisienne. Au sein de la police parisienne, cela crée un choc profond. Cette police parisienne, depuis déjà de nombreuses années, elle est travaillée par des ferments, à caractère raciste. J'en donnerai un seul exemple. Avant même la guerre d'Algérie, le 14 juillet 1953, à l'occasion d'une manifestation pacifique d'Algériens qui réclamaient la libération de leur leader, Miss Ali Hadj, place de la Nation, des policiers ouvrirent le feu contre le cortège qui se dispersait. Il y avait eu 7 morts. Et il y avait eu des scènes de ratonnade, place de la Nation. Deux policiers accompagnés de bérets rouges, d'ailleurs, qui avaient défilé le matin sur les Champs-Élysées. Ça, c'était en 1953, alors qu'il n'y avait pas de guerre en Algérie.
J'avais 14 ans. J'étais venue avec des amis de mes parents découvrir la vie parisienne, et ce qu'était le 14 juillet. Et puis, en plein milieu de la manif, coup de feu, 7 morts. 7 Algériens, partisans de Messali Hadj, qui manifestaient pacifiquement, tirés comme des lapins. L'ami avec qui j'étais a emmené des blessés à l'hôpital et il s'est fait courser par les CRS. La deux chevaux était pleine de sang. Voilà, c'est mon premier souvenir de manif. Hélène de Rouen.
En avril 1961, très officiellement, très publiquement, dans un leader policier, disons d'extrême droite, menaçait de former des commandos de policiers pour que les policiers se fassent justice eux-mêmes. Voilà. Et donc, ces attentats survenant, eh bien, on a vu se développer un terrible désir de vengeance. Terrible. Et dans le courant du mois de septembre, on a commencé à retrouver des cadavres de Nord-Africains au fil de l'eau. Et je dis de Nord-Africains à dessein, parce que c'était non seulement des Français musulmans d'Algérie, comme on disait, mais aussi des Marocains, mais aussi des Tunisiens. Il y a eu dans cette période de nombreux Marocains qui ont été victimes d'assassinats ou de tentatives d'assassinat. Et d'ailleurs, ça avait créé de grosses difficultés dans les relations franco-marocaines. Donc on retrouve ces cadavres. Et là, on commence à voir de premiers témoignages. Et parmi les Algériens, la rumeur se répand. On veut nous noyer. Parce que ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que ces Français musulmans d'Algérie, ce sont pour l'essentiel des Kabyles. Des gens qui viennent de régions de montagne. Très peu d'entre eux savent nager. Très peu. Et ça, c'est connu. Hein. C'est pas par hasard qu'on les jette à l'eau. Hein. Et donc, il y a une véritable psychose qui se développe. Du côté donc des forces de police, on demande, face à ces attentats qui ont eu lieu, on demande aussi l'exécution des condamnés à mort. On demande l'instauration d'un couvre-feu. Et le 5 octobre 1961, sur décision du gouvernement, le préfet de police Maurice Papon et le ministre de l'Intérieur Roger Frey décrète un couvre-feu s'appliquant à toute la population originaire d'Algérie, à tous les Français musulmans d'Algérie. C'est un couvre-feu qui ne dit pas son nom d'ailleurs, hein. Il est formulé en termes de conseil pressant, mais dans les documents internes à la police, on parle là bel et bien de couvre-feu. Donc ces Français musulmans d'Algérie n'ont plus le droit de sortir de 20h30 à 5h30 du matin. C'est un couvre-feu qui viole les principes et la lettre de la Constitution.
Le couvre-feu a été fixé à 20h pour tous les Nord-Africains vivant dans l'agglomération parisienne. Pour la première fois depuis le début de la guerre d'Algérie, le FLN organise une manifestation de protestation qui durera pendant 3 jours.
Des témoins rapportent aux journaux des scènes de lynchage, de noyades.
Un témoignage important en 1991, celui de Ali Haroun, avocat, historien, l'un des chefs du FLN, de la Fédération française du FLN, qui à l'époque était le porte-parole en France de cette même fédération.
Alors, le 17 octobre, donc, le comité fédéral, en réponse aux demandes de la base, c'est-à-dire des militants de base, a envoyé des directives. Ces manifestations devaient se dérouler le 14 octobre, mais vu le manque de temps pour la préparation, ça a été reporté au 17. Ces manifestations avaient pour but de montrer que l'ensemble des Algériens, pacifiquement, étaient avec le FLN et qu'il était temps d'arrêter cette répression inutile. Une des mesures de répression qui avait été imaginée par M. Papon était d'imposer un couvre-feu spécial à une certaine catégorie de population, c'est-à-dire tous les Algériens qui se trouvaient dans la région parisienne, il leur était interdit, je dis entre guillemets conseillé par M. Papon, de ne pas sortir après 20 heures et avant 5 heures du matin. Donc toute personne au teint basané et aux cheveux crépus ou frisés qui se trouvait dans les rues à ce moment-là était l'objet de sévices et de bastonnades. C'était le fameux couvre-feu raciste que le FLN voulait combattre. Pour le combattre, eh bien c'était simple. Nous avions imaginé qu'un jour, un jour J, toute la communauté algérienne qui se trouvait à Paris et dans la région parisienne allait sortir manifester sur les grands boulevards, à l'Étoile, l'Opéra, le Quartier Latin, etc. Tous les boulevards où il y avait beaucoup de monde et surtout beaucoup de touristes étrangers qui auraient été les témoins oculaires de ces manifestations. Nous avions demandé donc à nos militants de sortir avec hommes, femmes et enfants et défiler après 20 heures, donc après le couvre-feu, l'heure du couvre-feu imposée aux Algériens, de défiler pacifiquement. Alors, moi je n'étais pas sur les lieux, bien entendu. Nous avions donné ordre à tous les responsables de ne pas se trouver, les responsables à partir d'un certain niveau, puisque nous savions qu'il allait y avoir des arrestations. Alors, par contre, il y avait sur les lieux des cadres moyens, c'est-à-dire au niveau du chef de secteur, chef de cellule, chef de groupe, etc. Ces gens-là étaient là pour encadrer. En plus, nous avions demandé à nos amis français des réseaux, ceux qui étaient pour la négociation, de se trouver un peu partout le long du parcours, de prendre des photos, de prendre des films et d'être les témoins oculaires de ce qui allait se passer. Je dois vous dire qu'à cette époque-là, le FLN était très structuré. Il y avait, on dénombrait à l'époque, 13 échelons entre la cellule de base et le comité fédéral. 13 échelons. Disons, dans le mois qui a suivi, toutes les semaines, nous recevions des rapports de plus en plus détaillés. Et c'est en faisant la synthèse de tous ces rapports que nous avons pu avoir une idée de l'ampleur de la répression qui s'est abattue sur cette manifestation. Nous avions prévu qu'il y aurait une réaction des services de police. Et c'est pour ça que nous avions prévu différentes phases d'action. La manifestation du 17 octobre devait se dérouler en trois phases. Mais ce que nous n'avions pas prévu, c'était la férocité de la réaction policière. D'après nos rapports, nous sommes arrivés à peu près à déterminer en moyenne 200 morts cette nuit-là. Je dis 200 parce que nous en avions déterminé plus d'après les rapports. Mais comme le lendemain et le surlendemain, des centaines, peut-être même des milliers d'Algériens ont été transférés dans les camps d'Algérie, nous n'étions plus en rapport avec eux. Alors, nous avions un grand nombre de disparus. Par contre, pour les morts, nous les avons évalués à 200. Et je dois vous dire que dans le mois qui a suivi, on a repêché tout de même une soixantaine de cadavres dans la Seine.
Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler, tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir. De vomir à la face du peuple de la commune, les corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire?
Vous savez tout ce qu'on a souffert en France, alors c'est pas marrant, c'est pas rigolo. Les harkis nous ont drôlement esquinté. J'ai été arrêté par la police française, j'ai été esquinté quand même, mais les harkis nous ont drôlement fait serrer les côtelettes. Hein. Ils nous ont serré les parties, ils nous ont donné des grands coups de pied sur la figure, dans les côtes, ils ont fait déposer les gens sur des bouteilles, mais moi, ils m'ont coincé les parties, ils m'ont fait drôlement. J'ai été pendant 9 jours à l'hôpital. Alors là, c'est une question qui ne se pose pas pour oublier des types pareils. Et ça, je n'oublierai pas tout ce que j'ai souffert.
Je peux vous expliquer comment qu'on fait le supplice de la bouteille. On attrape une personne. On lui lie les mains avec les jambes. Un morceau de poids entre les jambes et les bras, comme ça. Et le morceau de poids au milieu. Après, il est toute nue et on lui fait fermer la bouche avec un mouchoir. À ce moment-là, il y a deux personnes qui le font assis sur la bouteille. À ce moment-là, c'est le plus dur. Alors là, le type, il peut dire qu'il voit l'enfer et le paradis.
Extrait du film Octobre à Paris. Ce film sort au bout de 50 ans. Il a été tourné en 1961, fin 61 et début 62, par Jacques Panigel. C'est donc à chaud que ces témoignages ont été filmés et enregistrés. Et c'est à voir, évidemment, pour comprendre ce qu'a été la torture. Bien sûr, on le sait maintenant de façon terrible et mais flagrante en Algérie, mais aussi en France, mais aussi à Paris, mais aussi dans le quartier de la Goutte d'Or. Et on va le voir, pas seulement dans le quartier de la Goutte d'Or. Parmi ceux qui ont maintenu cette mémoire, il y a Didier Deninx, l'écrivain Didier Deninx, qui en 1984 a publié un livre, Meurtre pour mémoire, qui je crois fait l'objet d'une bande dessinée d'après ce livre. Et Didier Deninx, qui vivait dans la région parisienne et qui avait 12 ans, se souvient des autres centres de torture dans la région parisienne.
Ben, 12 ans, c'était, j'habitais dans une cité qui s'appelle la cité Robespierre et où pratiquement toute la cité était organisée en comité de vigilance antifasciste. Ma mère participait à ce comité, donc elle disparaissait le soir, elle disparaissait dans la nuit pour monter la garde et tout. Et les enfants étaient confiés à d'autres voisins, des retraités surtout, qui gardaient les enfants comme ça et qui s'en occupaient pendant que les parents étaient en train d'attendre les parades, s'organiser et tout. Donc il y avait une ambiance très... très lourde, surtout qu'Aubervilliers, il y avait une communauté algérienne très, très importante, 20% de travailleurs algériens. Et moi, j'étais dans un quartier qui était un quartier très proche du quartier algérien, la rue du Pont-Blanc. Et il y avait aussi un hôtel réquisitionné par les supplétifs algériens qui servait de centre de torture. Donc les Algériens étaient torturés à Aubervilliers.
Par qui ?
C'était la police française qui avait organisé des harkis qui étaient sur place à Paris, dans tous les arrondissements, dans le 18e, 13e, il y en avait partout. Hein. Et le centre le plus important était à Noisy-le-Sec, pour tout le centre d'instruction pour toute la région parisienne.
Comment ça fonctionnait exactement ?
Ça fonctionnait, il y avait, comment c'était sous l'autorité de la préfecture de police de Paris, il y avait des hôtels qui avaient été réquisitionnés, qui étaient souvent des hôtels qui appartenaient à des Algériens, et on leur avait piqué l'hôtel sous forme de réquisition, et on installait des harkis qui étaient là, qui étaient armés, qui étaient en uniforme, et qui avaient des voitures. Alors donc, dans les années 60, il y avait encore cette image de la traction qui existait encore, et donc il y avait des gens, des militaires, policiers, comme ça, qui ratissaient la banlieue, qui ratissaient les quartiers populaire de Paris et qui cherchait des dirigeants FLN ou des militants FLN. Et les gens étaient ramassés, envoyés, torturés, tués et tout. Même à Aubervilliers, il y en a la trace, puisque le maire de la ville, à l'époque, avait pris un arrêté municipal pour interdire l'activité de ces supplétifs qui foutaient la terreur dans tout Aubervilliers.
Et c'était à la demande et organisé par la préfecture de police de Paris.
Oui, complètement. Maurice Papon, qui était préfet de police, en était totalement responsable de cette organisation-là. Donc ça, mais c'est célèbre aussi beaucoup dans le 13e arrondissement, 14e arrondissement, 18e arrondissement, où il y avait aussi ça, où ça a laissé des traces dans toutes les mémoires des Algériens.
Alors, c'était le 3 décembre 60. On a entendu des coups de feu dans la rue, on est sorti du café. Et puis là, il y a un harki qui venait avec une mitraillette, qui nous a fait sortir du café, qui nous a amené à la cave du 28, rue de la Goutte d'Or. Et là, ils ont battu, ils ont pu faire des tortures, ils mettaient de l'eau javel. Et puis j'ai rencontré lui, il était évanoui, lui ont mis de l'eau javel, il était évanoui. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté sur un tas de charbon.
Il y avait des bouteilles cassées, du charbon, du chiffon, excusez-moi, c'est la mer, tout ce m'a mis, tout l'a mis sur le charbon.
Témoignage donc dans le film de Jacques Panigel, Octobre à Paris, qui sort ces jours-ci, des voix des hommes il y a 50 ans, qui raconte ce qui se faisait, ce qui se pratiquait à Paris par ces fameux harkis, c'est-à-dire, il ne faut pas confondre avec les harkis d'Algérie, on reviendra sur ce thème-là, mais avec ces unités, ces forces de police auxiliaires qui avaient été faites par Maurice Papon, le préfet de police, pour infiltrer les milieux algériens, les milieux du FLN, et réprimer, torturer et faire parler ces têtes à Paris même. Jean-Luc Kennedy.
La Fédération de France du FLN, du Front de Libération Nationale Algérien, c'est quelque chose de très important, de très puissant. Il y a à cette époque-là environ 400 000 Algériens, et pour reprendre le terme exact de l'époque, de Français musulmans d'Algérie. Ça. Car ces gens, à cette époque-là, sont Français.
Et oui.
Ils ont une carte nationale d'identité. Donc ils sont environ 400 000 en France et environ 120 000 dans la région parisienne. Et cette Fédération de France du FLN qui encadre très étroitement, de manière autoritaire, voire brutale, cette immigration, a pour fonction de soutirer les cotisations. Le rôle de cette Fédération de France, c'est un rôle financier. Elle apporte 80% des ressources financières du gouvernement provisoire de la République algérienne. Et Debray veut depuis toujours casser cette Fédération de France. Il faut également préciser une chose, c'est que depuis 1960, sur décision de Michel Debray, la torture avait été installée à Paris. Sous la responsabilité immédiate du préfet de police, Maurice Papon, avait été créé ce qu'on appelait la force de police auxiliaire. Cette force de police auxiliaire, créée donc en 1960, était composée de personnes d'origine algérienne, venues d'Algérie, qu'on avait fait venir d'Algérie, ce que certains appellent communément des harkis, hein, et qui étaient encadrés par des officiers français. Et la raison d'être profonde de la création de cette police parallèle, c'était la pratique de la torture pour obtenir le renseignement. Dans un premier temps, des hôtels ont été réquisitionnés dans le 13e arrondissement, puis dans le 18e arrondissement, rue de la Goutte d'Or, et dans les caves de ces hôtels, eh bien, ont torturé. Et cela sous la responsabilité immédiate de Maurice Papon.
J'étais arrêté par les harkis. Ils m'ont emmené au 28 rue de la Gouda, chez le café qui fait le coin en face. Alors, ils m'ont descendu à la cave. La cave est un peu grande. Elle se trouve sur deux côtés, vous savez. Alors, il y a un côté, en descendant les escaliers, au fond, et ensuite à droite, il y a une porte à droite. Alors à l'intérieur, il y avait des sommiers, des vieux sommiers d'ailleurs, il y avait des bouteilles vides, il y avait des tas de choses, des papiers de toutes sortes, quoi. Il m'a frappé, il y avait mon demi-frère qui était avec moi en bas, que lui, il l'a brûlé, il l'a matraqué, à plusieurs reprises d'ailleurs, auquel il a cassé des dents, il l'a défiguré pour ainsi dire.
Extrait à nouveau du film Octobre à Paris que vous pourrez voir à partir de la semaine prochaine. Donc premier volet de ce retour sur le 17 octobre 61, 50 ans après. Merci à Jean-Luc Kennedy, Nicole Rhin, Ali Harou, Didier Daninx. Toute une série de livres, de films. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Gilles Gaillard et Yann Bouillot étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touillez. Et Grigory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.